bonsoir Tristan, bonsoir à tous. Alors voilà, donc c'est un rêve que j'ai fait avant-hier. Voilà. Alors je me trouve dans un lit d'hôpital. Je suis pas bien, je suis très fatiguée, je suis passive, enfin j'ai l'impression que vraiment je suis très très malade, etc. Bon, je suis allongée, après je m'assois dans mon lit, et une personne arrive que je ne connais pas, donc qui se met à côté de moi, debout, à côté de mon lit, qui me dit « il faut sortir ». Il faut, alors je comprends pas trop ce qu'elle me dit, j'ai l'impression qu'elle s'adresse pas à moi, et là je prends conscience que c'est vers moi qu'elle dit ça, quoi. Qu'elle me dit « faut partir, faut sortir ». Alors je dis mais je me lève, et elle m'aide à enfiler une robe de chambre rose, une très jolie robe de chambre que j'avais dans mon enfance. Et puis en fait elle me dit mais c'est pas que du lit, il faut sortir de l'hôpital. Ah bon, alors je dis ben, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je sorte de l'hôpital. Donc je m'assois sur une chaise à côté du lit. Je vois que dans la table de nuit, il y a une sorte de parfum. Je voudrais me parfumer et ça ressemble à un déodorant. Et j'appuie pour m'en mettre dans le cou, etc. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il fonctionne, mais le petit trou là, par lequel s'échappe le gaz, ça ne sort pas vers moi. Ça sort vers l'extérieur de moi, pas dans le bon sens. J'arrive pas, je tourne dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Donc je laisse tomber l'affaire. Et puis, dans mon dos, j'entends une autre personne qui dit « ben oui, mais il faut la sortir, il faut l'emmener, il faut la sortir ». Et puis quand je me retourne, je m'aperçois que c'est une personne que je connais, de connaissance, une amie, on peut dire ça, une amie. Et puis je la regarde et je dis « mais c'est à toi, c'est à moi que tu parles ». Elle me dit « oui, oui, c'est à toi, il faut partir maintenant, il ne faut plus rester là ». Il faut quitter l'hôpital. Alors, je suis surprise qu'elle soit là. Je suis rassurée en même temps, contente. Et je m'effondre en larmes dans ses bras. Elle est avec un petit frère qui a une douzaine d'années, alors qu'elle est adulte. Je comprends pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Je comprends pas. Donc, on s'en va de l'hôpital. Enfin, on va dans la cour de l'hôpital. Il y a une cour, des jardins, une cour. Et je marche avec elle. Et là, je m'aperçois en fait que je suis en chaussons blancs et roses, comme la robe de chambre. Et ils sont très très fins, un peu, oui, doucereux, mais le sol est plein de cailloux, des gros cailloux, et évidemment, ça me fait mal aux pieds. Et je me dis, mais quand même, j'aurais dû mettre mes chaussures. Là, c'est pas raisonnable, je vais pas aller loin avec ces petits chaussons-là. Et j'ai mon sac à main en bandoulière, je sors de mon sac à main mon peigne, je me coiffe et là je m'aperçois en fait que j'ai les cheveux longs, lisses, beaux, je me les peigne et puis je m'aperçois que je suis pas du tout malade, je suis pleine d'énergie, très très bien dans ma tête, très bien dans mon corps. Je me demandais pourquoi quand j'étais dans le lit d'hôpital, j'étais pas bien. Et une fois que je suis sortie du lit, je suis très bien. Hein, je suis pas du tout malade. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et cette personne qui m'accompagne, cette connaissance, me fait rencontrer des personnes aussi qu'elle connaît de sa région. Alors elle me les présente, on parle un petit peu, on se promène un petit peu. Et là, je me retrouve assise dans une voiture, côté passager. Et au volant, c'est un homme grand, costaud, vraiment baraqué, mais que je connais pas du tout. Il fait partie des connaissances de cette personne-là. Et on roule. Et puis j'ai dit, mais on est sorti de l'hôpital, là maintenant, de la cour. Il me dit oui. Ah bon, mais on n'a peut-être pas le droit de sortir de l'hôpital comme ça. Et on se retrouve sur une route où il se met à conduire à vive allure à 150 km/h. On est dans la nuit. Et là, je commence à dire, ben alors, si on est sorti de l'hôpital, on est sur une route à rouler comme ça, il faut que je mette ma ceinture de sécurité. Mais je ne suis pas du tout en sécurité. Il roule comme un fou, il dépasse les camions, il se rabat au dernier moment. C'est épouvantable, quoi. Je panique. Et il me dit, mais il faudrait peut-être que... Il me donne un portable, un très grand portable, grand comme la main, en me disant, faut appeler votre mère pour lui dire, alors, ta mère, il me tutoie et moi je vous vois. Il me dit, appelle ta mère. Alors j'ai ça certainement pas, je vais pas appeler ma mère du tout. Ça, il n'en est pas question, j'appelle pas ma mère. Par contre, je vais appeler mon mari. Et pas moyen de faire le numéro de téléphone de mon mari. Et quand je lui dis que je veux téléphoner à mon mari, il me dit, ah oui, mais avant ça, il faut faire autre chose. Il commence à m'enlacer, à me prendre par le cou, et puis mettre ses jambes sur mes jambes. Et je dis, mais alors je commence à m'affoler. Il dit, non. Je le repousse et je dis, vous avez plus les mains sur le volant, mettez vos pieds sur les pédales, on va aller s'écraser contre un camion. Et il roulait. Bon, on était en pleine nuit et j'étais vraiment affolée. Et il me dit qu'il allait m'emmener dans un appartement, 3 pièces. Et là, il me dit, vous savez comment ça finit les faits divers hein, ces derniers temps. Alors je dis, bah oui, mais je veux décontracter un petit peu, enfin détendre l'atmosphère. Et je lui dis, oui, mais ça peut peut-être finir bien, hein, les histoires, les rencontres. Enfin, j'essaie un petit peu de souffler, de me détendre, parce que c'est la panique complète, quoi. J'ai très peur. Et il y a un moment même où je veux sauter en marche. Donc je mets la main sur la poignée de la porte et je veux sauter, mais il ne réagit pas. Alors je comprends très vite qu'il a bouclé toutes les portières, je ne pourrais pas sortir. Et je dis de toute façon, à cette allure-là, je vais me tuer, quoi. Alors j'ai pourtant le portable et j'arrive pas à me servir du portable. Et le rêve s'arrête comme ça. Eh ben, en le racontant, dites donc que je trouve qu'il est bien long ce rêve.
Oui.
Oui. Oh là là, je me rends compte là.
Ça va, la narration était soutenue, donc c'était pas trop long, écoutez.
Bon.
Mais c'est vrai que c'est dense.
C'est vrai que j'en suis vous.
Et puis en plus, il y a vraiment deux parties distinctes.
Oui.
La guérison et puis l'angoisse d'être dehors. Avec cette figure masculine qui n'est pas rassurante du tout.
Non.
Est-ce que vous pensez que c'est votre père qui pourrait être représenté ?
C'est vrai qu'il était autoritaire, mais moi je l'ai pas connu beaucoup. J'ai pas beaucoup connu, hein. Mais il était autoritaire, oui.
Alors, est-ce que ça peut être une figure de substitution du père ou est-ce que c'est lui ? Parce que là, on a l'impression que, étant petite fille, donc à l'époque de la robe de chambre,
oui, fillette adolescente.
Vous n'étiez pas rassurée par la conduite de votre père.
Ah.
Qui est dans une représentation, une surreprésentation masculine, mais qui n'est pas juste.
Oui.
Et donc là, vous seriez en train de revivre quelque chose qui a pu vous atteindre, que vous n'aviez pas travaillé apparemment, mais c'est le comportement à risque de votre père, et le fait que donc la petite fille que vous étiez n'était absolument pas rassurée en sa présence. Donc est-ce que c'est le père, est-ce que c'est un beau-père qui a pris sa place, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas eu de beau-père, non, je cherche, non. Il n'y a eu que le père, non, non.
Mais donc, il est sorti de votre horizon à quel âge, votre père ?
Bah déjà, quand j'avais... Enfin, vraiment, l'horizon, c'est à plusieurs étapes, mais vraiment, la dernière fois que je l'avais vu, je devais avoir 11 ans.
Et avant, il n'était pas beaucoup présent ?
Ah ben non. Non, non. Depuis l'âge de 18 mois, environ 18 mois jusqu'à 11 ans, non.
Il faisait des allers et retours ?
Non, mais mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans, je ne sais plus.
D'accord, et donc vous êtes resté avec votre mère et vous voyiez peu votre père ?
Voilà, c'est ça. Déjà jusqu'à 11 ans, puis après je ne l'ai plus vu.
Et votre mère s'est remariée ?
Elle a eu un compagnon, mais vraiment complètement inexistant.
Il n'était pas présent dans votre vie, il n'a pas pris la place du père.
Oh non, du tout. Personne n'a pris la place du père. Non.
D'accord, donc là je pense vraiment que c'est votre père qui est représenté et que vous êtes en train de constater les dégâts qu'il a pu faire. Et oui. Son attitude qui n'est pas du tout claire vis-à-vis de vous. Pourquoi le représenteriez-vous comme ceci ? Il cherchait à impressionner ? Il avait besoin de surjouer ?
Oui, il était un peu cabotin, hein, aussi. C'était un ancien militaire.
Et il se prenait pour Superman ?
Oui, c'est... Je sais pas, oui, il faisait un petit peu... Oui, quelque part, oui. Il avait ce petit côté-là, oui. C'est très curieux parce qu'en me posant toutes ces questions, À 14 ans, j'ai eu un grave problème de santé, j'étais à l'hôpital, donc je réclamais mon père, donc ma mère avait contacté mon père pour qu'il vienne me voir et il a refusé de venir.
Ah oui,
J'avais 14 ans.
c'est terrible.
Ben oui.
Et donc vous ne l'avez plus jamais revu.
Si, je l'ai revu après quand j'étais maman, à mon tour, mon petit garçon avait quelques mois. J'ai revu deux ou trois fois.
Il s'est manifesté.
Non, c'est moi.
D'accord. Mais donc ça n'a pas donné plus que cela.
Non, il est décédé là maintenant.
Alors, ce que montre le rêve, si on le reprend maintenant dans l'ordre, c'est qu'il y a un processus de guérison qui est vraiment manifesté dans le rêve. Il y a une partie de vous qui restait un petit peu dans une sorte de torpeur, comme si vous n'alliez pas bien. Mais cette voix, c'est aussi une voix intérieure, une injonction qui vous dit qu'il faut vraiment vous lever.
Oui.
Il faut à la fois sortir du lit, mais aussi sortir, retrouver votre vie sociale.
C'est ça, j'avais bien compris ça, ouais.
Et que donc cet ami qui est représenté, qui serait donc la porte-parole de votre voix intérieure, elle amène cette sortie. Mais alors qui est-elle dans la réalité? Vous la connaissez?
Oui, je la connais.
Qu'est-ce que vous appréciez chez elle?
Sa douceur, son écoute. Elle écoute, elle.
Donc elle vous entend.
Oui.
Tout ce que n'a pas fait le père.
Oui, puis ni ma mère. Voilà.
Alors j'ai l'impression que la problématique de la mère, elle est réglée, que vous avez travaillé dessus et
Oui,
que donc effectivement
mais
ce
dans
n'est
la
plus.
réalité, quoi. C'est pour ça, elle n'écoutait pas. Mais c'est vrai ce que vous dites. Oui, tout à fait. Mais le père, non.
Voilà, que donc cette figure intérieure, qui est une partie de vous, a pris le relais de la mère et vous amène avec douceur à cette fermeté. Il faut se vous lever, il faut sortir, sortir de ce.
Ah oui, c'est le terme sortir qui
Oui.
revient tout le temps.
Sortir de cette attitude que vous aviez prise, qui était une attitude un petit peu donc dépressive, et en cherchant les causes, et donc la cause, c'est cette présence du père, abandonniste, et quand il est présent, qui surjoue, et qui donc n'est pas rassurant du tout. Donc finalement, qu'il soit parti, c'était mieux, hein.
Oui. Oui, c'est terrorisant, je vais vous dire, dans le rêve, c'est terrorisant, hein, vraiment. Dans le noir, s'il y a la forêt, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a rien. Je peux me raccrocher à rien. Pourtant, il me tend un téléphone portable.
Qui ne fonctionne pas.
Ben, c'est moi qui n'arrive pas. J'appuie sur les touches et à la moitié du numéro, j'embrouille tout, j'arrive pas.
Ben là, le rêve vous enjoint de regarder maintenant la relation à votre père et donc à quel point il a pu être déstabilisant, angoissant pour vous, avec ses allers-retours, parce qu'il y a quand même cette notion qui est évoquée avec la voiture, et que quand il est là, il est en surreprésentation, il joue à l'homme fort, donc certainement ce qu'il ne sent pas être.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est exactement. Oui.
Et la bonne direction serait que vous puissiez maintenant vous rétablir dans votre couple, apparemment, puisque c'est donc votre mari que vous invoquez à ce moment-là, et c'est redoublé avec précédemment les chaussons. Quand vous sortez en chaussons, vous n'êtes pas dans votre posture de femme.
Ah oui.
Voilà, il y a une partie de vous qui n'est pas dans le couple. Et donc, s'il y avait des résistances à l'idée du couple, c'est certainement par cette image négative de l'homme que votre père avait laissé. Et
D'accord.
donc, malgré vous, inconsciemment, une sorte de défiance de votre conjoint.
D'accord.
Mais le rêve vous invite à entrer dans la région du cœur, puisque la région qu'il vous est proposé de visiter, je pense que c'est celle du cœur, et que vous êtes maintenant capable de faire les différences entre qui est qui, et avec les amalgames que l'inconscient a pu faire précédemment.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avec le cœur, vous savez reconnaître maintenant qui est juste et qui est bien positionné et qui est bon pour vous. Donc, a priori, dans votre couple, vous avez besoin de ce couple pour affronter les obstacles. Mais ce couple fonctionnera beaucoup mieux s'il n'y a plus ces engrammes négatifs, les traces de la mémoire du père.
D'accord. Et l'histoire du peigne où je me retrouve avec des cheveux longs, très soyeux, châtains, ils sont très beaux, très longs.
Alors oui, tout à fait, vous avez mis de l'ordre dans vos pensées. Donc en ce qui concerne votre image, vous êtes OK. Il reste juste ce petit problème.
D'accord.
Donc la personne va bien, c'est maintenant la personne dans le couple qui est bien de, qui a besoin de savoir pourquoi, malgré vous, il y aurait pu y avoir des résistances. Et donc là, on le voit très bien, la place du père n'est pas juste du tout, il n'est pas rassurant. C'est quand même le premier devoir d'un père d'être rassurant pour sa fille, de la protéger. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, et en plus, il a une attitude qui est ambiguë. Il
Oui.
cherche à vous impressionner,
Ah oui, complètement.
comme un homme voudrait impressionner une femme, et non pas comme un père voudrait rassurer sa fille.
J'ai l'impression d'être prise en otage là, même parce que j'ai aucune issue. Ni par le remettre dans le droit chemin, ni arrêter sa voiture, ni. Je sais pas, j'ai complètement. C'est l'affolement, quoi.
Voilà, il y a un travail de nettoyage qui reste à faire
D'accord.
pour que la position d'épouse que vous avez soit juste
D'accord.
et que vous ne soyez pas dans un paradoxe, c'est-à-dire une surdemande parfois vis-à-vis de votre conjoint et des résistances inconscientes.
Quand vous dites une surdemande.
Ben, ça peut entraîner une attitude paradoxale. Vous pouvez attendre qu'il prenne la place du père.
Ah oui, d'accord.
Puisqu'a priori, votre père n'a jamais pris sa place. Et en même temps, vous pouvez avoir des peurs
D'accord.
inconscientes, donc des résistances.
Ah d'accord.
Et être critique, par exemple. Et insatisfaite.
D'accord. Ben, il y a du boulot.
Pas trop, puisque là, vous avez posé comme un diagnostic, un plan de bataille assez clair, et vous savez qui est qui.
Et les cailloux par terre, les grosses pierres.
Les obstacles que vous avez besoin d'affronter. Et
D'accord.
donc là, on voit effectivement que vous avez encore besoin du couple.
Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est ça.
Est-ce que ça vous semble juste?
Oui, ça me parle, hein, ça me parle, mais je voyais pas les choses comme ça. Mais oui. Je voyais bien qu'il y avait aussi la guérison au bout et qu'il fallait sortir de cet état. Un peu chétif, un petit peu passif comme ça, mais je voyais bien qu'il y a la guérison. Déjà, je l'ai vu par les cheveux, le fait de sortir, enfin bon. Mais après, je pensais que ça allait tourner un peu, ça tourne au cauchemar, donc j'étais déçue, quoi.
Ben si, puisque là, vous saviez pourquoi vous n'osiez pas sortir. Il y avait cette image à affronter.
Ah oui, d'accord, très bien, d'accord, ok. Bien, bien, bien.